23h45, vous êtes bien sur votre radio en direct du studio Coluche. C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct. Nous accueillons maintenant Martine qui nous appelle de loin, je crois.
Allô.
Bonsoir Martine.
Allô, bonsoir Olivier.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Et vous, vous m'entendez ?
Moi, je vous entends 5 sur 5.
Ah, bon ben c'est bien. Bon, voilà, je suis encore dans la nature. Oui. En plus, la pluie commence et je pense que je vais me mettre à l'abri d'un hangar.
Oui.
Et voilà, donc on se connaît depuis un petit moment, je crois qu'il y a à peu près 3 mois. On s'est parlé.
Oui, exactement.
Bon, et puis je suis bien contente de vous entendre.
Mais moi aussi.
Je m'ennuyais. Et puis en même temps, j'en profite pour dire bonsoir à tout le monde. Et merci aux personnes qui avaient laissé des petits messages après mon intervention.
Oui, parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup parler. Et il y a eu plein de messages pour vous, Martine.
Oui.
Suite à votre intervention. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que je ne suis toujours pas passé en Normandie, mais je vous l'avais dit, hein, l'hiver,
oui,
j'ai peu l'occasion de passer. Mais
j'ai remarqué. Et pourtant, je guette. Quand j'aperçois une voiture qui s'arrête là-bas à 100 mètres de la ferme, je me dis peut-être que ce serait Olivier Delacroix, pourquoi pas. Mais
ça
non.
Ça viendra.
C'est pas vous.
J'ai eu des nouvelles de votre fille, par contre.
Hein. Pardon ?
J'ai eu des nouvelles de votre fille.
Ah !
Qui est journaliste.
Ah. Peut-être bien, oui.
Oui, elle m'a envoyé des nouvelles.
Bon. Mais en fait, hein, oui, c'est pas gênant si les moutons... on va peut-être entendre un peu les moutons.
Pas du tout. Ça va faire du bien à beaucoup de monde d'entendre des moutons là en ce moment, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour vous à la campagne, mais nous, voilà, en ville, on est enfermés une bonne partie de la journée.
Oui, je sais. Et d'ailleurs, voyant un peu ce qui se passait, j'ai beaucoup insisté pour que ma fille revienne. Donc elle est là depuis mardi matin.
Eh bien, vous avez bien raison.
Je ne voulais pas. La nuit samedi à dimanche. Non, dimanche à lundi, je ne pouvais pas dormir en me disant, mais vraiment, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle revienne. Et j'avais vu quand même certaines choses où les gens n'étaient pas raisonnables. Donc j'ai beaucoup insisté pour qu'elle revienne. Voilà. Et puis elle est là.
Bon. Alors, vous voilà rassurée.
Oui, oui.
Comment ça se passe pour vous ? On parlera peut-être du confinement, mais on entend les moutons, donc c'est vrai que le confinement est sans doute plus agréable à la campagne. Comment ça s'est arrangé, vos histoires ? Rappelez-moi un petit peu le contexte de vos histoires à l'époque.
Oui, bon alors, je vais vous en parler un petit peu. Donc, quand je vous ai appelé, alors ce soir-là, il faisait bon, j'étais assise là, justement au bout de la bergerie, et je vous disais que je voyais la voiture de la gendarmerie arriver à 20h, 22h du soir.
Oui, oui, oui.
Et c'était suite à mes deux vaches. Il y en a une qui s'appelle Bravo et l'autre c'était Pépette. Ils sont passés chez un voisin, mais c'est un terrain inculte, quoi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire et ces barrières sont toujours ouvertes. Et en fait, ce monsieur avait porté plainte à la gendarmerie. Mais ce que j'ai découvert avec horreur, c'est que quand j'ai été convoquée à la gendarmerie le lendemain, on me pose plein de questions. Alors, mon nom de famille, le nom de jeune fille de ma maman, le nom de jeune fille de mon papa, et je voyais pas trop, ils voulaient en venir. Au bout d'un moment, ils me disent « Connaissez-vous monsieur Intel ?» Je dis « Bah oui, en fait, c'est un voisin. » Et ben voilà, il a porté plainte contre vous pour violence sur personnes vulnérables et injures non publiques. Et voilà encore dans quel engrenage je me suis retrouvée, à ma grande stupéfaction. Tout ça pour deux bêtes qui étaient passées chez lui, alors que moi, je n'ai jamais touché à ce monsieur. Lui, par contre, il m'avait bousculé. Je lui ai dit, vous m'avez fait très mal, et je pense que je vais le dire à la gendarmerie. Et c'est tout.
Oui.
Et alors, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit aux photos, j'ai eu droit aux empreintes, j'ai eu droit à l'ADN, enfin tout.
Mais non.
Oui.
Mais pourquoi ça ? Pourquoi ça, en fait, pour les deux vaches ?
Oui, parce qu'il a porté plainte que je l'avais violenté.
Mais c'est dingue, ça. Pff,
bon. Et voilà. Mmh. Et c'est dingue. Et au bout d'un moment, parfois, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment normale ? Est-ce que j'invente pas ? Mais j'invente rien du tout.
Martine, non, je sais que vous n'inventez rien. En plus, vous êtes la personne la plus gentille de la Terre. mais cet homme, vous ne m'aviez pas dit en plus que c'était un Parisien qui s'était installé là il n'y a pas longtemps, c'est ça ?
Oui, voilà, il est venu construire.
Il ne supportait pas les bruits de vos poules.
Oui. Voilà, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'ils ne supportaient pas surtout le bruit des oies, les chiens, mais pourtant on est loin, on est, bon, j'aperçois sa maison là au loin parce qu'il fait clair de lune, mais on est à 200 mètres de lui, mais je ne sais pas ce qu'il a, il ne supporte plus, et c'est lui qui disait que ces deux poules, il a tourné ça, que le quotient intellectuel de ces deux poules était le même que le mien et celui de mon frère, oui. Voilà.
Il est particulièrement charmant, cet homme, donc.
Oui. Ah, c'est horrible. Et alors, donc les gendarmes avaient oublié de me faire l'ADN. Donc ils me rappellent un jour en me disant, maintenant il faut qu'on fasse l'ADN. Je dis, mais je peux pas aller comme ça à la gendarmerie tout le temps, vous rendez compte? Alors finalement, ils sont venus le faire ici, à la ferme.
Non mais bon, l'ADN pour, rappelez-moi donc...
suite à la plainte de ce monsieur qui
oui,
a
oui,
dit que
oui, j'ai compris,
l'ADN...
mais je rappelle à tout le monde que vous êtes, donc vous êtes dans une ferme et que, enfin voilà, c'est totalement... Oui. Vous savez, on vient de quitter une jeune femme qui nous racontait vraiment quelque chose. Vous avez entendu, hein,
oui,
et vous avez entendu la peine qui a été prononcée contre son agresseur.
Oui.
Et vous, on vous fait. Par contre, on vous loupe pas, quoi. Hein,
voilà.
Vous devez aller à la gendarmerie et faire votre. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas dans cette société là.
Alors là, il me loupait pas et j'ai eu très peur et c'est revenu classé sans suite. Et là-dessus, d'ailleurs, mon beau-frère m'avait préparé un modèle de lettre pour que j'envoie au procureur. Et en fait, je ne l'ai pas envoyé parce que, au bout d'un moment, j'ai très peur, quoi. J'ai très peur. Je me dis, j'ai pas osé l'envoyer. Ou on expliquait un peu ce qui se passait autour de moi, mais j'ai pas osé l'envoyer, cette lettre. Elle est toujours là.
Je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire de la campagne, encore, hein, qui vient de la campagne, parce que c'est vrai que quand on traverse la campagne, comme ça, ces villages bucoliques, avec les champs, les animaux, et puis ces agriculteurs, donc, et ces gens de la campagne qui sont très proches de la nature, c'est vrai qu'on peut, s'imaginer vraiment que c'est formidable. Et puis, on pourrait même d'ailleurs on fait des films sur la beauté de la campagne, sur les valeurs du travail et de l'esprit de la campagne. On pourrait faire aussi un film sur le côté un peu moche, vous voyez, le côté de la rumeur, des ragots, de tout ce qui fait que la campagne est un microcosme qui est souvent compliqué à comprendre et puis surtout à supporter, parce que il s'en raconte des choses et il s'en passe des choses dans la campagne. Donc, et à ce propos, j'avais rencontré une dame qui était d'origine gitane.
Vous me l'avez raconté
Je vous l'avais raconté. Mm-hmm. Et cette femme, elle avait été menacée par les gendarmes d'être, alors qu'elle n'était pour rien dans une histoire de chien qui avait mordu une touriste qui passait, mais elle avait été menacée par les gendarmes de se faire menotter la prochaine fois qu'elle ne répondrait pas à une convocation.
Oui.
Et les gendarmes l'avaient menacée de la traîner sur tout le marché. Menotter pour que tout le monde la voie menotter.
L'horreur.
Et j'avais appelé le supérieur de ces deux gendarmes.
Oui.
Et le supérieur avait totalement été dans le sens de ces deux militaires là. Et il m'avait dit, mais vous savez monsieur, je suis pas enregistré là surtout. J'ai dit non, vous n'êtes pas enregistré. Je vous appelle juste pour vous dire que voilà, madame qui est mon amie, en fait voilà, est-ce que vous trouvez que ça élève l'image des gendarmes lorsque vous avez deux de vos gars qui parlent comme ça, sincèrement, comment vous pensez qu'on interprète nous l'image des gendarmes lorsqu'on entend ça? Il était embêté, mais bon, il avait dit que voilà, il avait essayé de charger cette dame en disant à la fin, en me révélant, vous savez comment on l'appelle dans le coin, cette dame, et je lui ai dit non, mais il avait tenu à me le dire, d'ailleurs je ne vais pas le révéler sur cette antenne, parce que ça n'avait aucun intérêt, c'était bête et méchant, mais on voyait que, voilà, des gendarmes, hein, on est censé avoir affaire à des gendarmes souvent qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour être le relais de la loi, des gendarmes qui ne doivent pas être jugés partis, mais qui doivent être équilibrés dans leur façon d'appréhender une situation. Eh bien, bon, entre vous et cette dame-là, ouais, je sais pas. Voilà, je connais les gendarmes, moi, dans mon patelin, là-bas en Normandie. Je peux vous dire que ils sont plutôt sympas et pas du tout sur ce modèle-là. Mais j'ai l'impression que voilà, il y en a certains qui font du slalom
Mais
un peu.
Mais avec moi, ils n'ont pas été désagréables, pas du tout. Pas du tout, mais ils m'ont dit que c'était la loi, c'était comme ça, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et que, et voilà, et que l'ADN, ils ne l'avaient pas pris.
C'était,
mais
la loi, c'était la loi de prendre l'ADN, donc, d'une dame comme vous, suite à des histoires de poules, quoi, en fait, hein, en gros.
Non, c'est parce que j'ai deux vaches qui sont passées. On était en pleine moisson.
Je sais, mais quand je disais histoire de poules, finalement, c'était deux vaches. En fait, voilà, un monsieur qui ne supporte pas les oies.
C'est ma fille qui est rentrée, Hélène était là, donc Hélène est rentrée. Après, ils ont dit que j'avais envoyé Hélène parce que j'avais peur, mais pas du tout. Hélène était là, et moi, j'étais restée un petit peu plus loin, en train de rentrer la paille. Et j'attendais qu'elle revienne, parce que je ne la voyais pas sortir de ce bon sens de terrain. Et c'est là que le gars est venu vers moi en me poussant, et je lui ai dit « Monsieur m'avait fait mal ». Et j'ai eu le malheur de lui dire « Je porterai plainte », mais sans faire, je ne l'ai pas fait.
Mais non, mais alors que lui, vous savez ce qu'il a fait, il s'est dit « Je vais aller porter plainte avant elle ». Et puis je vais raconter des mensonges, et puis les gendarmes l'ont cru. Voilà.
Et puis il avait deux témoins, sa femme et un autre monsieur, donc on m'a dit le nom, et je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
Mais vous n'avez personne, là, dans le pays, qui vous défend un peu contre ce gars-là qui est arrivé. Là, il est pas... Là, il arrive et puis il veut faire la loi, en fait.
Oui, non. Non, je vous avais dit, deux jours où mes parents sont arrivés là, ça n'a jamais été accepté parce qu'en fait, dans ce village, c'était tous des vieilles familles qui étaient tous cousins, cousines. Et mes parents, quand ils ont pris cette ferme, ça a été mal vu, mais pourquoi, je n'en sais rien.
Mal vu, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le monde agricole, chacun mire, regarde, pour ceux qui ne comprennent pas mire, sur la ferme d'à côté.
Ouais.
Et aujourd'hui, la situation est tellement dure que ça devient encore de plus en plus dur. On guette la chute de l'autre pour pouvoir racheter les terres. Vous voyez? Et ça, c'est malheureusement bien présent chez nos agriculteurs, quoi. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas tous les agriculteurs. Mais il y a quand même cet état d'esprit qui est en même temps rude et petit, en fait. Et lorsqu'en plus, on n'est pas du pays, moi, je veux dire, je suis à la campagne et ma famille. Ma famille, vous savez, je vous avais dit où j'habitais la dernière fois. Donc, vous savez, bon, mais moi, je suis né. Ma mère est née là. Donc, on est une famille du coin. Donc, on n'a pas.
Oui, on connaissait. Voilà.
Et donc, ils connaissaient les familles du coin. Mais c'est vrai que les nouveaux arrivants, je sais qu'ils n'étaient pas très bien vus. Et pourquoi? Juste parce qu'ils étaient nouveaux arrivants. Voilà.
Et papa et maman, ils en ont beaucoup souffert.
Bien sûr.
Surtout papa, parce que maman, mais papa, ils souffraient. Et c'était quelqu'un, en plus, mes parents ont toujours eu des chevaux, et papa était très cavalier, et il se baladait avec son... Il avait un superbe étalon, et quand il faisait ses balades, mais moi, ça remonte très loin, parce que papa est décédé en 1970, alors. Et il faisait ses balades avec les talons, et nous, on se baladait à cheval, c'était très mal vu. C'était... Bon, je ne vais pas vous répéter ce qu'il disait, mais c'était très mal vu. Papa passait pour un feignant, voilà, c'était ça. Alors, c'était sa balade du dimanche. Par contre, quand il y avait un vélage à faire quelque part ou des piqûres à faire, on allait le chercher. Parce que lui, il savait véler les vaches correctement. Il avait une véleuse, il avait déjà pas mal d'outils. Et là, on venait le chercher, ce qui rendait maman pas très contente, qui, maman, derrière, freinait toujours un petit peu en disant « Mais tu en fais trop, tu donnerais ta liquette. » Et puis, il y allait quand même, en se disant « Un jour, ils vont changer. » Mais en fait, ils ne changeaient pas. Ils ne changeaient pas.
Martine, vous allez répondre à une question, en fait. Vous n'avez pas de casier judiciaire?
Non.
Vous n'êtes pas fiché?
Non. Bon. Et maintenant, je le suis.
Alors, j'en profite pour répondre à Kat, qui a l'air de savoir beaucoup de choses, et qui dit que classé sans suite, mais il n'en reste pas moins qu'un prélèvement ADN a été fait et conservé, plus que certainement, madame est fichée. Eh bien non, Kat, qui nous écrit au 39-21. Voilà. Certains, il y a des moments, je reçois des SMS, et là, je peux pas m'empêcher de ne pas le dire, parce que, voilà comment une rumeur peut partir. Quelqu'un qui assure d'un seul coup quelque chose, là, avec en prenant un peu de la hauteur, en disant « c'est comme ça, il y a eu ça, et puis c'est sans doute comme ça ». Eh bien, désolé, Kat, vous voyez, vous êtes à côté de la plaque, ça arrive. Donc, on réfléchit un peu, on tourne, comme me disait mon père, cette fois sa langue dans sa bouche, avant d'écrire un petit message sur le net, hein. Voilà.
Oui. Non, absolument rien, mais ça m'a fait très peur et j'étais pas fière du tout en me demandant où j'allais me retrouver. Et ça a été classé sans suite. Mais le monsieur en question, là, il est toujours là. Je regarde pas, hein, il passe, on a refait des clôtures à côté de chez lui.
Martine, on marque une pause parce qu'il est l'heure du journal de minuit. Nous sommes toujours avec Martine, qui nous appelle de sa Normandie profonde. Vous êtes dans l'heure, hein, c'est ça?
Oui, je suis dans l'heure.
Bon, et
pas très loin.
Vous me disiez qu'il allait pleuvoir, là, dans l'heure?
Là, ça y est, on a eu vraiment une belle ondée. Heureusement que vous ne m'avez pas pris avant, parce que je n'aurais pas pu vous parler. Il pleuvait vraiment à torrent. Là, ça y est, c'est terminé.
Bon.
Mais oui, voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que vers 20h, il faisait très doux. Et ça ne me surprend pas que la pluie soit arrivée. Mais là, c'est fini. Mais on a eu notre dose quand même. Hein. On a été pendant 2 mois à avoir des trombes d'eau épouvantables, inondées, puisque moi, j'ai la rivière Liton qui passe. Alors, Liton est comme ça. L'été, ça s'appelle le Séquiton. Il n'y a pas d'eau. Et l'hiver, eh bien, on est sous l'eau, mais la moitié de nos herbages, partout. Et là, ça a été vraiment une catastrophe. Ça commence, c'est pas encore rentré dans son lit. Ça commence, mais pas encore.
Bon.
La rivière est toujours sortie du lit. Oui, alors tout à l'heure, on parlait de ce fameux voisin. Là, je ne sais pas ce qui lui a pris tout d'un coup. Enfin, je ne sais pas, il s'est acharné. Il y a quelque chose qui ne doit pas lui plaire. Mais ma fille est un petit peu quand même contrariée. Et je crois que ça ne va pas tarder qu'il y aura une main courante parce que là, il est trop, trop désagréable. Il est tout le temps avec ses jumelles à regarder par chez nous. Donc ça commence un petit peu à nous chauffer.
Mais oui. Mais pourquoi ils vous regardent avec des jumelles? Enfin,
je sais pas. En ce moment, en plus, c'est joli à voir puisque j'ai des naissances, les petits veaux arrivent. J'ai une petite pouliche qui a aussi une petiote depuis 3 jours. En fait, c'est joli. Alors il est avec ses jumelles. En même temps, il regarde le pré, mais il regarde la cour, il regarde partout, quoi.
Et je me rappelle que vous aviez eu un signalement pour votre poney. Il y avait
celle qui avait été cachée. Oui, elle va bien. Et je pense d'ailleurs qu'elle va pas tarder à mettre bas. Mais ce qui me gêne, c'est que suite à cette plainte, alors qu'elle s'était fracturée le coude et qu'on l'a sauvée et que je me suis battue pendant des mois pour la sauver, mais les gens qui passaient ne comprenaient pas puisqu'il fallait la lever avec le tracteur et des sangles. Alors, au lieu de me poser des questions et de me demander ce qui se passait, ils sont allés alerter les services vétérinaires. Et maintenant, vous avez dit mon département. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme tout est vrai, et les services vétérinaires m'avaient interdit de ravoir des bébés, ravoir des poneys.
Bon, et de là, toute façon, Martine, si vous avez le moindre problème, vous m'appelez. D'accord.
Oui, alors il y en a un d'arriver, là, une jolie petite alezane. Non, elle n'est pas alezane. La maman est alezane et la petite, elle est pie. Et celle qui s'est fracturée le coude, eh ben je crois qu'elle est pleine aussi. Mais ça ne sera pas pour tout de suite quand même, ça sera bien après, mais je pense qu'elle est pleine.
Ces poneys sont en pleine forme en tout cas, hein. Ils vivent heureux, hein,
oui.
ça se sent.
Ouais, tout le monde va très bien, tout le monde. Il y en a 3 qu'on a mis dehors pour la première fois hier, avec Hélène, on les a mis au pré. C'était la fête, quoi. C'était la fête.
Bon,
ils gambadaient, ils sautaient partout. Et heureusement, ce soir, on les a rentrés, heureusement, parce que je ne pensais pas avoir une pluie pareille qui nous tombe dessus.
Comment ça se passe, le confinement chez vous, alors? Comment vous vivez ça, la campagne?
Pour l'instant, déjà, je ne vois pas beaucoup de voitures passer, je n'en vois presque pas. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est le laisser-passer qu'il a fallu que je demande à quelqu'un de m'en imprimer.
Oui.
Et c'est mon bon frère, cet après-midi, qui m'a rapporté des courses. Parce que la première ville est quand même à 15 km, hein, une ville que vous trouvez très jolie d'ailleurs.
Oui.
Et il m'a rapporté de l'eau, il m'a rapporté du beurre, il m'a rapporté du fromage, du pain. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin bon, il y avait tout un paquet que j'avais demandé à ce qu'on essaye de rapporter quelques courses. C'est vrai que ça c'est un peu compliqué, mais je constate quand même que les gens sont pas très raisonnables parce qu'on est un petit village de 75-80 habitants.
Oui.
Et la moitié résidence secondaire. Alors ça y est, les résidences secondaires elles sont ouvertes. Moi ça me gêne pas, les gens viennent, aucun problème. Mais hier après-midi il y avait un couple qui se promenait bras dessous avec leur petit garçon. Et j'ai trouvé qu'on disait qu'il fallait faire attention, prendre des précautions. Enfin bon. Je trouve que les gens ne sont pas très raisonnables.
Mais non, parce que même à la campagne,
parce que ma sœur aînée habite à 30 km d'ici, et il y a un cas. Il y a un monsieur de 55 ans là, qui est malade. La factrice m'a dit ce midi qu'il y a une factrice qui a sa fille, qui est malade aussi.
Oui, mais de toute façon, il est partout, hein, ce virus.
Voilà.
Il est très, très contagieux.
Il ne faut pas croire que la campagne, eh bien non. Alors le monsieur en question, ben, il a tenu le bureau dimanche, parce qu'il était sur la liste des élections. Et il a tenu le bureau toute la journée. Je crois qu'il a contracté quelque chose, quoi. Je ne sais pas.
J'allais vous demander justement s'il se présentait aux élections, vu qu'il a l'air très investi, ce monsieur. Donc, il se présente aux élections.
Celui-là, qui est méchant à côté de moi.
Qui vous embête.
Non, lui, il ne se présente pas. Non, pas lui. Une autre qui n'était pas très sympathique, enfin pas très sympathique. Voilà, sa réflexion, il y a quelques années, elle me parlait. J'arrivais justement d'une réunion au presbytère. On faisait une réunion un jour et j'étais un peu en retard. Je vois une voiture qui repart de chez nous. Elle revient, elle me dit, je voudrais vous acheter une oie. Parce qu'elle avait vu que j'avais des oies. Et puis elle me dit au bout d'un moment, si on me voit en train de vous parler. Une dame qui venait d'arriver dans le village. Et ça, ça choque. Je suis désolée, mais ça choque. Moi, ça m'avait beaucoup peiné.
Bien sûr.
Qu'on me dise ça.
Enfin.
Parce que dès que quelqu'un arrive, on leur dit ça. Et par contre, il y a un couple qui vient d'arriver, là, depuis à peu près un mois et demi, qui ont acheté une résidence secondaire, là. Alors, eux sont venus spontanément se présenter. Et ils sont charmants. Elle m'a apporté de l'eau il y a 3 jours, elle m'a apporté du pain, elle m'a apporté des... Alors, et une autre de mes meilleures amies m'a dit, pourvu que ça dure, parce que bon, peut-être qu'on va aussi lui donner des consignes.
C'est exactement ce que je pensais. Mais bon, après, vous savez, il y a des gens qui sont avertis sur la nature humaine et qui, lorsqu'on vient... si on vient les voir et qu'on commence à leur dire des bêtises sur vous, peut-être ils ne compteront pas là-dessus, quoi. Enfin, ils se feront leur idée.
Je pense, parce que quand, pour refaire revenir ma fille, je l'avais appelée en disant, mais que pensez-vous? Parce qu'elle travaille toujours sur Paris, cette dame. Et que pensez-vous? En ce moment, elle est chez elle. Elle ne va plus à Paris. J'ai très envie de faire revenir ma fille. Elle m'a rappelée en me disant, mais il faut que votre fille revienne et moi, j'irai la chercher à la gare. Et c'est elle qui est allée la chercher à la gare.
Bon, super. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de Parisiens qui sont partis dans leur résidence secondaire et il est certain, de toute façon, que certains d'entre eux étaient porteurs. Oui.
Mais tout à l'heure, on parlait d'agriculteurs. Je me dis que peut-être que quelqu'un va m'entendre et qu'on va pas. Je veux quand même pas que tout le monde pense qu'ils sont tous très méchants. Vous savez que tous les ans, on doit faire la prophylaxie, c'est-à-dire qu'on doit vacciner tous les animaux une fois par an.
Oui.
Et faire les prises au sang. Et il y a donc 3 agriculteurs qui viennent toujours m'aider. Le papa d'un meilleur ami de ma fille, un ami de ma fille, et leur voisin. Oui. Mais ils habitent à une trentaine de kilomètres d'ici, ils habitent pas par là.
Oui.
Et eux, je peux les appeler, leur demander, j'ai besoin, on va vacciner. Ils sont tout de suite prêts à venir.
Non, mais il y a plein de gens fantastiques dans la campagne. Voilà. Je vous ai bien précisé tout à l'heure, Martine, que ça ne concerne pas tout.
Oui, ouais. Olivier, voilà, ils sont pas d'ici. Ils sont de l'autre côté, assez loin.
Ouais.
Donc, ils n'ont qu'un intérêt. Et mon souci, c'est que les vaccinations devaient être faites pour la fin du mois. Et que là, il n'est pas question qu'ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas envie, et puis je les comprends. Et je ne sais pas comment on va faire nos vaccinations. J'espère que ça va être tolérant, qu'on ne va pas me tomber dessus encore le 1er avril en me disant vos vaccinations ne sont pas faites. Je ne sais pas.
Alors, tout ça risque de faire l'objet d'une dérogation, vous savez, parce que tout est décalé là. Donc ne vous inquiétez pas trop. Tout est suspendu, Martine. Donc,
je ne pense pas
qu'on va venir vous embêter pour ça. Autrement,
j'ose pas demander.
À qui vous êtes censé demander autrement?
Il faudrait que je téléphone au groupement de défense sanitaire, mais j'ose pas leur demander parce qu'on a eu une réunion il y a à peu près 3 semaines.
Oui.
Non, il y a un mois maintenant. Donc, j'ai parlé gentiment avec le directeur et on disait que ça s'arrêtait fin mars parce qu'en plus, notre vétérinaire arrête définitivement et il n'y a pas d'autre vétérinaire. Et il arrête fin mars.
Et pourquoi? Alors, il prend sa retraite?
Oui. D'accord. Et il n'a pas trouvé de successeur. Et donc, il nous avait bien prévenu de faire la prophylaxie avant son départ. Ça s'appelle la prophylaxie. Alors, la prophylaxie ne va pas être faite et je ne sais pas encore comment je vais me sortir de cette affaire.
Ça aussi, les vétérinaires, on pense que les vétérinaires, ils gagnent beaucoup d'argent et tout, mais c'est très compliqué aujourd'hui d'être vétérinaire en campagne.
Vétérinaire rural, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur.
Bien sûr.
C'est dur, il est fatigué ce monsieur.
Bien sûr, mais c'est très fatigant.
Et... et il n'a pas retrouvé tout ce... Notre vétérinaire que nous avons eu pendant X années, lui, est décédé. Son successeur n'a pas voulu refaire de rural. Après, l'autre qui a fait de la rurale a arrêté, hein, qui habite, vous devez connaître aussi ce village, a arrêté la rurale en me disant qu'il en avait assez de faire la rurale. Et celui qu'on a eu ensuite, qui nous a été nommé, est à 40 km d'ici, et il arrête à la fin du mois, définitivement, parce qu'il a l'âge de la retraite. Et il a trouvé personne. Alors voilà encore un souci. Et puis vous saviez qu'on voulait quand même euthanasier trois animaux, trois bêtes.
Oui, vous m'aviez dit ça la dernière fois.
Oui, alors là, ça a encore été un combat. Ça a commencé le 1er mars l'année dernière, et j'ai vraiment passé une année d'enfer, une horrible année. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Alors début décembre, oui, je reçois un courrier où on me dit que suite au contrôle, c'est normal qu'il y ait des contrôles, ça je conteste pas, mais les trois bêtes en question, ils n'avaient pas trouvé la traçabilité, parce que les mères n'étaient plus là.
Alors donc c'était quoi comme animal ?
Eh ben trois bovins, trois jeunes de 20 mois et 24 mois.
Ouais.
Et dont une qui est très proche de nous, qui est pas très loin de moi d'ailleurs, là, doit être sous l'hangar, je sais pas où elle se balade. Et puis, j'ai reçu un courrier, je disais, mais non, vous les tuerez pas. J'ai reçu un courrier début décembre où les services vétérinaires me disaient que ces trois animaux, puisqu'ils n'avaient pas retrouvé la traçabilité, allaient être euthanasiés, que le vétérinaire serait là, en présence du camion de l'écarissage, et qu'il fallait que je compte, que je mette ces animaux à l'étable, et qu'on allait me les euthanasier et jeter la viande. J'étais au sans-coup, j'avais 48 heures pour répondre, j'ai rappelé le lundi, j'ai reçu la lettre le samedi. J'ai rappelé le lundi en leur disant quand est-ce que s'arrêtent les 48 heures, ils m'ont dit ce soir. Alors il fallait que je m'explique, je leur ai dit mais il n'y a pas moyen de retrouver les prises de sang des années d'avant. Oui, en fait on pouvait. J'ai rappelé les services sur Rouen, ça s'appelle l'association régionale d'identification. J'ai eu une dame, mais vraiment très gentille. Je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. On peut pas me tuer trois bêtes comme ça. Remonter plusieurs années en arrière. Ils sont remontés jusqu'à décembre 2016. Et début janvier, j'ai eu un coup de téléphone du technicien me disant, on a retrouvé les prises au sang des mères de vos trois bêtes. Alors je lui ai dit, mais vous les tuez pas? Il me dit, non, on les tue plus. Je lui ai dit, vous êtes sûr? Non, on va plus les tuer. Et voilà où j'en suis. Donc on ne les tue plus. Les mères, les prises de sang des mamans ont été retrouvées. Et il m'a rapporté mes passeports, ça s'appelle passeport. Oui. Et en me les rapportant, il m'a encore contrôlé tout le monde. Les petits veaux qui venaient d'arriver, et si j'avais bien déclaré. Et maintenant, j'attends mes cartes sanitaires que je n'ai pas. Donc, on ne peut pas vendre. Et j'ai appelé au service pour les cartes sanitaires. Et ils m'ont répondu que tant que je n'avais pas payé, je n'aurais pas mes cartes sanitaires. Mmh. Et comme on ne peut pas payer... Et ben voilà, et ben on tourne en rond.
On voit à travers votre témoignage le quotidien des agriculteurs aussi, toute cette paperasserie qu'il faut faire en permanence, parce que c'est vraiment au cœur du quotidien et vraiment du poids. Tous les agriculteurs parlent de ça aujourd'hui. Hein,
c'est fatigant.
Du poids administratif tout le temps qu'il faut tout le temps faire et qui prend bien évidemment du temps. Rajoute une charge de travail sur tout votre boulot, en fait.
Oui, alors nous, c'est une petite structure, on ne peut pas se permettre d'avoir un secrétariat. Moi, ils m'ont dit, vous devriez consacrer 2 heures par jour de secrétariat.
Non, c'est impossible. Bien sûr.
Je ne peux pas, là, surtout les mois d'hiver. Et là, j'ai encore des biberons à donner. J'ai des agneaux là, qui ont besoin de biberonner parce que les mères n'ont pas assez de lait.
Et là, vous parlez d'une petite exploitation, mais une moyenne exploitation avec 20-30 vaches. Hein, vous imaginez même 2 heures de secrétariat par jour, c'est impossible.
Mais j'ai le nombre que vous me dites. Hein,
vous avez 20-30 et donc c'est petit ça.
Oui.
D'accord. Une moyenne.
Pour nous c'est petit.
Une moyenne c'est combien
petit.
Alors
maintenant les gens tournent autour de 300 bêtes. Je sais plus la mie d'Hélène, ils ont 300 bêtes maintenant.
D'accord. Et c'est considéré comme moyenne ça, 300 bêtes?
Ça, oui, c'est pour eux c'est encore moyen.
D'accord.
Nous Nous, en comptant les mamans et les enfants, on est arrivé à 45, quelque chose comme ça. C'est un boulot fou. On y est constamment. Et je ne peux pas me permettre de faire 2 heures par jour de secrétariat. Ce n'est pas possible. Alors, ben, je prends sur mes nuits, je prends un moment comme ça, à droite, à gauche. J'arrive à faire mes déclarations en temps. Là, mes dernières naissances, les déclarations ne sont pas faites. Mais je vais les faire. Je cherche les noms de mes veaux. Enfin, bon, je vais bien trouver. Et puis, parce que je cherche toujours quelque chose qui correspond avec l'endroit où ils sont nés, avec ce qui s'est passé à ce moment-là, ou alors une traçabilité vis-à-vis de leur mère. Donc, il y en a une que j'appelle Bravo, parce que c'est une voisine qui l'avait appelée Bravo. Quand elle était petite, elle l'appelait Bravo le veau, et Bravo, elle vient d'avoir un petit. Alors, j'ai envie de l'appeler Piaf, parce que ça correspondrait à la chanson d'Edith Piaf, où elle chantait Bravo. Voilà, je cherche comme ça, un petit peu des idées originales.
Bon.
Mais pour en revenir à mes histoires de traçabilité, c'est infernal, quoi. On dort plus. On dort plus. On est malade. Moi je disais, mais vous allez, s'ils arrivent avec un camion, qu'est-ce que je fais? Je vais les laisser tuer? Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas.
Est-ce que vous connaissez des cas où c'est déjà arrivé?
Oui, oui. Il y a justement un des messieurs qui m'aide tout le temps, a eu un veau qu'ils ont élevé au biberon il y a à peu près 2 ans. Mais il s'est laissé faire. Et la mère était morte, ils ont élevé au biberon, et je ne l'ai pas dû déclarer en temps, parce que voilà, des fois on a des torts, il faut déclarer très vite, on a 8 jours pour déclarer.
Oui.
Il n'a pas dû faire ses déclarations en temps.
8 jours après la naissance, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Oui. Ils lui ont tué le veau, qui avait déjà 6 mois.
Ouais, c'est...
Et
bon,
quand je vous dis tuer, tuer c'est jeter, la viande est jetée,
d'accord,
pas oubliée.
D'accord. Bon,
j'espère que tout ça va s'arranger quand même. Et quand les animaux arrivent d'Argentine ou je ne sais trop où, enfin des fins fonds du monde, là, vous croyez que la traçabilité, elle est vraiment faite? Moi, j'y crois pas.
Je n'en ai aucune idée, ça, Martine.
Je ne peux pas m'avancer
là-dessus, mais pour vous, c'est pas possible?
C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on voit des reportages où vous avez des 1000 bêtes ou 2000, 3000 bêtes ensemble, c'est pas possible. Il y a bien un petit veau qui doit aller sous la mer qui n'est pas la sienne. Et vous avez souvent des vaches qui adaptent des veaux qui ne sont pas à eux. Donc, non, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Nous, chez nous, on y fait très, très attention. Très attention.
Je me doute. Mais tout ça n'est pas facile.
Je voulais vous dire quand même qu'il y a quelques agriculteurs qui m'ont aidé. Et puis j'ai toujours eu des soucis. Et il y a de très, très nombreuses années, j'étais passée sur Europe. Alors voilà, c'était avec Viviane et Christian Morin.
Oui.
Vous voyez un peu?
Oui, oui, oui.
Et déjà, c'était pour une histoire épouvantable où on m'avait fait encore des ennuis pour un herbage qu'on voulait avoir dans le coin. Et puis, j'avais fait ma candidature, tout. Et puis, ça a été refusé. Et quand j'ai demandé au directeur de m'expliquer pourquoi c'était refusé, après, on m'a dit, mais vous n'êtes jamais venu vous inscrire. Et j'avais été m'inscrire, mais j'avais aucune preuve. Et j'avais raconté mon histoire à l'époque sur Europe.
Vous voyez, bon, donc rien ne s'est arrangé depuis, pratiquement.
Bah oui, à part que cet herbage, finalement, ça a été revu, et je l'ai eu.
Bon.
Et on l'a, cet herbage. Ouais,
bon.
Ouais.
Très bien, Martine.
Mais oui.
Bon.
Et il y a quelque chose qu'on avait dit. Ah oui, donc je ne sais pas si j'ai le droit de demander.
Dites-moi.
Vous disiez, là, les soucis, eh ben, on va manquer de nourriture pour les animaux.
Oui.
Parce que l'herbe n'a pas du tout poussé. Nous, on a été inondés pendant des mois et des mois.
Oui.
Donc, il n'y aura pas d'herbe. Et j'ai du fourrage que je pourrais récupérer à un certain endroit, mais à 60 km d'ici. Et le transporteur ne veut pas le faire parce qu'il a licencié son personnel. Enfin bon, tout est compliqué. Et je ne sais plus où m'adresser, je ne sais plus. Je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle Solidarité Paysan.
Oui.
Et ils m'ont répondu gentiment, enfin, j'ai eu de très bons contacts avec eux. Un agriculteur a répondu qu'il voulait bien me charger le foin et qu'il fallait que je trouve une linière. Et ça, je n'en ai pas.
C'est quoi une linière?
Eh bien, c'est une remorque très 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 longue, quoi, une grande remorque. Parce que le transporteur que j'avais contacté ne veut pas le faire là, à cause des conditions dans lesquelles on est, puisque il n'a pas son personnel.
Et donc, ce qui veut dire que si personne ne vous aide là, ça va déboucher sur quelle situation ?
Eh bien, j'ai plus que 2 boules de foin pour tout le troupeau.
Et ça va durer combien ? Vous en avez pour combien avec deux boules de foin ?
2 boules de 300 kilos, j'en ai pour 4 jours.
4 jours, et donc dans 4 jours, les vaches n'ont plus à manger.
Ben, ils auront toujours, nous avons des betteraves, nous avons d'autres aliments, mais je n'aurai plus de foin.
Bon, alors, si vous habitez dans la région de Conche-en-Bouche, même si vous êtes agriculteur et que vous n'avez pas trop de problèmes, et que vous êtes même dans la région d'Évreux, là-bas, du Neubourg, en tout cas, voilà, à 30 km à la ronde, eh bien, si vous nous entendez quand même...
Notre foin, il est assez loin, il est à la limite du Calvados. Et il y a à peu près 60 boules à récupérer.
Ah, votre foin, plus, il y a 60 boules. Donc, il vous suffit d'avoir simplement cette fameuse linière.
Voilà, du matériel. Il faut avoir du matériel.
Qu'on peut le transporter dans un camion, même un camion, vous voyez, de transporteur. Si un transporteur vient, vous pouvez les mettre là-dedans.
Je pense, mais voilà, j'ai un agriculteur par l'intermédiaire Solidarité Paysan, lui veut bien les mettre sur un véhicule ou sur une remorque, mais c'est tout, et c'est déjà pas mal. Il faut trouver le reste.
Voilà. Bon, écoutez,
je vous avais dit que je faisais le tour de mes herbages à pied tout le temps, et c'est vrai que je commence à fatiguer. En plus, j'ai été grippée là, pendant 3 semaines, mais bien. Et mon rêve, parce que je regarde souvent L'Amour est dans le pré, cette semaine où j'étais vraiment trop fatiguée, j'ai pas pu, j'avais trop sommeil, et je rêve de trouver un quad d'occasion pour faire le tour de mes herbages. Parce que quand je vois L'Amour est dans le pré, on les voit tout le temps sur des quads, ils ont une chance. Ils ont une chance quand je les vois en train de se balader parmi leurs animaux avec les quads. J'aurais bien un jour en dégoter un, mais financièrement, je ne peux pas. Bon. Je ne peux pas parce que nous n'avons pas vendu d'animaux depuis un an, suite à tous nos ennuis de services vétérinaires, trucs et machin.
Oui.
Bon, maintenant, on aimerait bien en vendre, mais je n'ai toujours pas mes cartes sanitaires. Et de toute façon, il faut attendre la pousse de l'herbe pour vendre des bêtes. Donc, parce que les gens vont acheter des animaux à partir du mois de... mi-avril, mai, quand il y aura de l'herbe dans les prés, quoi.
Bon, en tout cas, écoutez, l'appel est lancé. On va le mettre sur notre groupe de parole. On va l'annoncer.
Je veux quelque chose de petit, de grand.
Il vous faut de toute façon un petit quad, même un petit quad 125, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'un truc qui va vite. Vous voulez un truc qui passe partout.
Voilà, et qui passe partout, et que je puisse faire le tour des herbages sans faire ça à pied, parce qu'il faut contrôler les clôtures tous les jours. Il y a intérêt.
Bon.
Et d'autant plus que je suis entourée par la forêt. Là, je vous parle, je suis devant la forêt qui fait, 30 kilomètres, là. Et beaucoup d'arbres sont tombés, là, depuis 15 jours, avec les tempêtes sur les clôtures, et il faut que je fasse des contrôles constamment. Et c'est vrai qu'à pied, je n'y arrive plus.
Ah oui, il doit y avoir un paquet d'arbres, parce que moi, je vais vous dire, dans ma maison, là-bas, perdu un chêne, on va dire un grand chêne qui devait bien avoir 50, 60 ans cet arbre. Il était grand et un coup de vent et bim, il est tombé. Incroyable. Parce que la terre était trop mouillée et puis il a pas tenu.
Là, avec la rivière, ils sont en train de tomber. Il y en a plein tombés. Ils ne tiennent plus et je pense qu'il y en a encore qui vont tomber. S'il y a un gros coup de vent, il y en a encore qui tomberont. Alors, les clôtures, je ne vous dis pas.
C'est un boulot, ça y est. Oui. C'est un boulot qui est tombé. Pourtant, un boulot, c'est bien solide. Les racines allaient bien loin dans profondément et pourtant loin aussi. Vous savez, les racines vont très loin. Oui. Il s'est arraché là au niveau du tronc, bam, il s'est coupé tout net.
Mais il y a eu aussi des rafales de vent énormes.
C'est ça qui a eu sa peau.
Certains endroits, il y a un arbre d'ailleurs, j'ai demandé à ma fille de faire une photo, il est fracassé quoi. Il est dans un état la tête coupée. Il y a dû y avoir encore un gros coup de vent à ce moment-là. Bah écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous parler.
Pour moi aussi, Martine. Et puis de toute façon, je passerai vous voir, c'est promis. Je reviendrai dans ma Normandie,
chouette. Hein. Oui,
avec grand plaisir.
Chouette, et là, vous verrez mes animaux qui soi-disant étaient en train de mourir. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, mais enfin, bon, personne n'est mort. Si, c'est vrai qu'ils avaient remarqué que mes deux dernières vaches les plus vieilles, vous voyez, bon, les gens disent qu'il faut les garder jusqu'à la fin. Nous, on en a, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu d'argent d'ailleurs, parce qu'on gardait toujours les animaux, ceux qui étaient vraiment les bonnes bêtes jusqu'à la fin. Alors, ça vit à peu près jusqu'à 14-15 ans. Et les deux dernières, l'an dernier, n'étaient pas très belles. Et les gens ont vu et tout de suite ont déposé plainte. Enfin, il faut demander pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ? Alors, quand on nous dit pourquoi vous les faites tuer et vous ne les gardez pas jusqu'à la fin de leur vie, c'est très dur de garder un animal jusqu'à la fin de sa vie. C'est très dur. Parce que quand ils arrivent vers la fin de leur vie, ils ne peuvent pas se lever, ils sont maigres, ils ne profitent pas, ils n'ont plus de dents. C'est dur. Et nous, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. Mais faire du sentiment, au bout d'un moment, on ne peut plus, quoi.
Ouais.
On ne peut plus, c'est trop dur. Et comme je vous disais, ma vieille grand-mère, là, celle qui a 32 ans, là, c'est une ponette. Qui s'appelle d'ailleurs Vaumoise, parce que mes grands-parents étaient de Vaumoise, vous savez, le village où le premier monsieur est décédé, là. Je connais très bien ce village, là-bas dans l'Oise. Et ma vieille grand-mère, c'est Vaumoise, justement. Et je disais, elle n'a pas passé l'hiver, mais si elle l'a passé.
Bon, elle très bien. Martine, je suis obligée de vous quitter parce qu'il y a du monde derrière vous.
D'accord.
D'accord.
Ça
a été un plaisir, je vous embrasse. Et puis,
voilà comment ça se passe. J'espère que les gens comprendront que c'est pas toujours facile.
Ils auront bien compris.
Mieux.
Et puis, surtout, tenez-moi au courant pour cette histoire de bête quand même. D'accord ? Cette histoire de boule de foin. Vous me tenez au courant comment ça avance ? Parce que s'il y en a plus pour 4 jours, on en reparle dans 4 jours. D'accord ?
Oui.
Je vous embrasse, Martine.
Merci en tout cas.
Passez une belle nuit.
Oui, bonne soirée à tout le monde et que tout le monde soit prudent.
Oui, au revoir Martine.
La libre antenne d'Europe 1.